Alors, de quoi le mot évaluation est-il le nom finalement? Alors, je crois qu'il est le nom aujourd'hui d'un dispositif de servitude volontaire qui fabrique une soumission sociale librement consentie. Pourquoi? Bon, d'abord, évaluer, on a toujours évalué. On accrédite la thèse selon laquelle il n'y a qu'aujourd'hui qu'on pourrait être en mesure d'évaluer quantitativement, objectivement, scientifiquement, les psychothérapies, la qualité des chercheurs, des enseignements, la qualité des journalistes, des productions culturelles, etc. C'est totalement faux. On a toujours évalué pour la bonne raison qu'on ne peut pas penser, juger, décider sans évaluation préalable. Donc ce qui est important, c'est pas savoir s'il faut être pour ou contre l'évaluation, puisque de toute façon, l'acte même de penser, de juger, de décider est consubstantiel à une évaluation, c'est-à-dire à l'estime d'une valeur, d'une chose, d'une personne, d'une activité. Donc obligatoirement, on est toujours en permanence dans une évaluation. Simplement, si on se réfère par exemple à la morale kantienne, la différence entre l'évaluation des hommes, l'évaluation de leurs activités humaines, et puis l'évaluation des choses, c'est que les choses ont un prix, mais l'homme a une dignité. Et on a tendance aujourd'hui à oublier cette différence entre les choses et l'homme. Alors, comment est-ce qu'on peut gommer cette différence entre les choses et les hommes, et les humains et leurs activités? Ben, c'est justement en se prévalant de l'objectivité. Le sociologue Adorno de l'école de Francfort disait que l'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait fi de toute idéologie, est déjà devenue en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme les choses. Je crois que le problème majeur, si vous voulez, il est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on évalue, mais on évalue d'une certaine manière au nom de l'objectivité, alors que je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure. Il n'y a pas d'objectivité scientifique et autres. Mais je veux dire, c'est un peu les chiffres, le fétichisme des chiffres. Max Weber parlait du romantisme des chiffres qui cache les questions et qui cache les jugements de valeur. Alors, revenons à la question de valeur. Valeur, étymologiquement, ça vient justement du latin valere, ça veut dire justement estimer la force de quelque chose, être fort. Bon. Donc vous voyez la différence entre le glissement, entre la valeur comme par exemple vertu, comme bravoure, comme courage, et puis aujourd'hui la valeur comme indicateur quantitatif de performance. C'est là que le glissement se fait. Et ça donne bien sûr, ça fabrique des impostures autant que des soumissions. C'est ça le problème majeur. Bon, pour être très concret, par exemple, prendre des exemples très concrets. Aujourd'hui, l'évaluation d'un universitaire, d'un enseignant-chercheur, va se réaliser non pas en fonction de la qualité de ses enseignements ou de sa valeur, je dirais, d'orateur, ou de son souci d'insérer les étudiants dans des réseaux professionnels leur permettant de trouver un emploi. Aujourd'hui, la valeur d'universitaire va se réduire de manière très étroite au nombre d'articles publiés dans des revues dites d'excellence. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nombre d'articles, ça veut dire que tout se passe comme si la qualité devenait une propriété émergente de la quantité, comme disait le philosophe médecin Canguilhem. Bon. Regardez, en décembre 2013, le prix Nobel de physique, Peter Higgs, n'est-ce pas, de physique, il déclare: aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas de poste universitaire, je serai considéré comme pas assez publiant. Vous vous rendez compte de l'aberration? Un prix de Nobel qui finalement ne serait pas recruté sur un modeste poste de professeur d'université parce qu'il n'a pas le nombre d'articles voulus dans des revues d'excellence. Des revues d'excellence, c'est quoi les revues d'excellence? Les revues d'excellence, ça n'est rien d'autre que ce qu'est la logique d'audimat dans le journalisme, c'est-à-dire un indice de popularité, ce n'est pas un indice d'excellence, c'est-à-dire c'est le nombre de citations, ce qu'on appelle l'impact factor, c'est le nombre de citations dont bénéficie une revue, si vous voulez, dans une communauté scientifique déjà elle-même arbitrairement définie comme étant une communauté internationale, ce qui veut dire aujourd'hui essentiellement une langue anglo-américaine et un réseau intellectuel hégémonique qu'est le réseau nord-américain. Donc, pour aller très vite, on croit qu'on va mesurer l'excellence d'une revue, on ne fait que mesurer son conformisme, si vous voulez, son insertion dans des réseaux de pouvoir et d'influence. Donc on est là vraiment dans quelque chose de très fallacieux, où on a des tas de biais méthodologiques. Je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien raconter. J'ai une histoire, c'est l'histoire des deux Francis. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire sur les ondes. Hein. C'est deux citoyens qui s'appelaient Francis et qui habitaient le même village. L'un était prêtre et l'autre était chauffeur de taxi. Et le hasard voulut qu'ils meurent le même jour. Alors ils se présentent tous deux devant le Seigneur, et c'est d'abord Francis, le chauffeur de taxi, qui passe. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Passe ensuite Francis le prêtre, le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton en chêne et ta tunique de lin. » Francis, après, ça m'a un petit peu surpris. Il dit « Seigneur, il doit y avoir une erreur. » Enfin, je ne veux pas dire du mal d'un concitoyen, mais quand même, je connais l'autre Francis. Il était athée, il picolait, il avait mené une vie dissolue, il s'engueulait avec tout le monde, il avait des accidents de voiture, je ne comprends pas très bien. Lui, vous lui donnez un bâton en platine et une tunique d'argent, et moi qui ai vraiment propagé votre foi, qui ai été chaste, qui ai mené une vie tout à fait régulière, dévouée à la cause religieuse, qui ai célébré tous les sacrements possibles et inimaginables, tous les dimanches, la messe, enfin, je ne comprends pas, moi vous me donnez un bâton en chêne et une tunique de lin, il doit y avoir une erreur. Alors, Seigneur, quand je suis encore sérieux, je dis, non, fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé nos modes d'évaluation. Maintenant, nous sommes beaucoup plus scientifiques et objectifs. Nous avons des indicateurs quantitatifs de performance. Chaque fois que tu célébrais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. Vous avez là... Vous voyez, en quelque sorte, n'est-ce pas, cette petite histoire peut raconter beaucoup mieux que je ne saurais le faire pendant 10 heures, ce qu'il en est de l'évaluation aujourd'hui. Et pour être cette fois beaucoup plus triste, je dirais, prenez l'exemple des conseillers de Pôle emploi. Lorsqu'au niveau de l'évaluation des conseillers de Pôle emploi, vous allez évaluer leurs activités en fonction, par exemple, du nombre de demandeurs d'emploi qu'ils arrivent à réinsérer sur le marché du travail, quel que soit le poste qu'ils trouvent, quelles que soient les conditions également de l'emploi. Que se passe-t-il ? Il se passe que les conseillers, qui sont eux-mêmes donc évalués quantitativement en fonction justement du nombre de demandeurs d'emploi replacés sur le marché du travail, ne vont s'occuper que de ceux qui ont le plus de chances de trouver un emploi. Donc vous arrivez à quelque chose d'absolument aberrant, puisque l'évaluation vient pervertir et biaiser les finalités mêmes des métiers qui ont été créés. Puisque théoriquement, et puis c'est totalement antidémocratique, puisque théoriquement, c'est ceux qui ont le plus besoin de ces conseillers-là qui sont les moins servis. Vous voyez ? Et ça, vous l'avez en permanence. L'évaluation, qu'est-ce que c'est ? C'est le cheval de Troie d'une logique du marché qui s'introduit dans des secteurs de l'existence sociale et professionnelle qui jusque-là en étaient préservés. Et je crois que là, on est vraiment dans une espèce de ce que j'appelle un rationalisme économique morbide, quoi. C'est-à-dire que tout est chiffré, on considère que c'est du chiffre, et sans réfléchir aux chiffres. Or, les chiffres devraient être là pour nous permettre de parler et non pas pour nous faire taire. Et aujourd'hui, si vous voulez, les chiffres sont là pour nous faire taire, il constitue la nouvelle manière de donner les ordres sans en avoir l'air. C'est-à-dire ce que le grand statisticien Alain Desrosières appelait « gouverner par les nombres ». C'est-à-dire, n'est-ce pas, faire comme si vous voulez, les nombres étaient bénéficiaient d'une espèce de neutralité de nuque, comme ça, n'est-ce pas, qui n'engage pas des valeurs morales, des valeurs politiques, des valeurs psychologiques. Or, je crois que derrière les manières d'évaluer, il y a une machine philosophique et anthropologique, il y a une véritable vision du monde. Et aujourd'hui, l'évaluation et essentiellement se fondent sur des indicateurs quantitatifs de performance, considèrent en somme le monde comme et l'humain, n'est-ce pas, comme une espèce de stock de marchandises à exploiter à l'infini. C'est ça le problème majeur, vous voyez. Et là, je crois que l'évaluation est vraiment le moyen et le vecteur de promouvoir une conception de l'humain comme sujet entrepreneur de lui-même, disait Michel Foucault, n'est-ce pas? Et en gros, de marchandiser l'ensemble des activités professionnelles. Les évaluations, elles sont là pour finalement modifier le comportement. Elles ne sont pas là pour optimaliser nos possibilités. Elles ne sont pas là, si vous voulez, pour mettre en valeur. Parce que théoriquement, dans évaluer, il y a aussi cette idée de donner de la valeur, en quelque sorte, aux choses et aux activités. Aujourd'hui, l'évaluation, elle est plutôt une dévaluation qui oblige en quelque sorte le professionnel à regarder, si vous voulez, les chiffres sur le compteur et à ne plus regarder la route, et c'est comme ça qu'on va dans le décor. La souffrance des professionnels aujourd'hui, n'est-ce pas, elle procède notamment de cette confiscation de leur savoir, de leur savoir-faire, si vous voulez, par des protocoles d'évaluation, par des évaluations très standardisées, très normalisées, qui leur disent comment ils doivent agir. C'est véritablement ce que j'appelle une prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que c'est que le prolétaire, Marx dit, le prolétaire, c'est pas simplement eu égard aux conditions matérielles et misérables de l'ouvrier. Le prolétaire, c'est l'artisan auquel la machine a confisqué son savoir et son savoir-faire et lui prescrit un certain nombre d'actes très fragmentés, très rationalisés, très organisés à accomplir. À partir de ce moment-là, il est exproprié de son acte professionnel. Eh bien, moi j'ajoute après Marx, c'est donc un capital symbolique, vous voyez, qui est confisqué. Ce n'est pas simplement les conditions matérielles de vie. Eh bien, j'ajoute qu'aujourd'hui, le médecin, le psy, l'infirmier, l'orthophoniste, le travailleur social, le journaliste, l'enseignant, l'universitaire sont prolétarisés dans la mesure où, si vous voulez, leur savoir et leur savoir-faire, c'est-à-dire du côté de l'artisan, et d'artisan et artiste, se trouvent confisqués par des machines immatérielles mais bien réelles, que sont les protocoles d'évaluation, que sont, si vous voulez, les standardisations de l'acte professionnel. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, bien sûr, qui va tirer son épingle du jeu dans cette histoire-là? On le voit bien au niveau des psychothérapies, par exemple, mais on pourrait prendre aussi l'enseignement, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont ceux dont la manière de fabriquer du savoir ou la manière d'accomplir un acte de soin se trouve le plus technique, le plus compatible, le plus soluble dans cette pensée du droit et des affaires. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, ça vient modifier le paysage hiérarchique des savoirs et le paysage hiérarchique, si vous voulez, des pratiques professionnelles. Plus c'est technique, plus c'est formel, plus c'est quantifiable, si vous voulez, davantage, bien sûr, c'est mis en valeur. Et donc c'est un peu comme ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la santé, eh bien les figures de proue de la rationalité médicale, ça va être du côté de l'épidémiologie, ça va être du côté des économies de santé, ça va être du côté de tout ce qui est technique, tout ce qui est imagerie médicale, etc. Ce sont des choses formidables, c'est pas le problème, c'est pas ça. Simplement, si vous voulez, la place qu'ils occupent dans la hiérarchie des disciplines médicales n'est pas déterminée par la qualité du savoir qu'ils apportent ou par la qualité des améliorations des pratiques qu'ils permettent, mais uniquement parce que, en gros, c'est une affinité élective entre les critères très formels, les critères très économiques, les critères très quantitatifs, et puis ceux qui fondent justement ces savoirs, ceux qui fondent ces disciplines. Quelqu'un comme le philosophe Jean-François Lyotard l'avait tout à fait anticipé. Dans un rapport en 1979, il avait montré justement, à propos des universités, rapport qui lui avait été demandé par l'Agence académique du Québec, il avait montré justement que on était en train de changer les modes de constitution du savoir. On était de moins en moins dans un savoir par le récit, par le discours, par la parole, et toujours davantage par un savoir par l'information. C'est très important, ça, l'information. Parce que l'information, elle est quantifiable d'une certaine manière. Et il lisait de manière tout à fait visionnaire, si vous voulez. Moi, j'ai essayé de développer, comme vous savez sans doute, dans mon livre La dignité de penser, justement cet aspect des choses, n'est-ce pas? Et il avait essayé de montrer que, du coup, il avait dit en quelques lignes, mais que, du coup, si vous voulez, cela allait faire en sorte que le savoir devait être traduit en langage de machine et que tout ce qui n'était pas traduisible en langage de machine, eh bien, allait tomber, pourrait-on dire, dans l'ombre justement de la valeur sociale. Et c'est là où on voit bien comment l'évaluation aujourd'hui, n'est-ce pas, est en quelque sorte l'utilité sociale que les services professionnels donnent, mais utilité sociale non pas en termes de rendre service aux patients, ou rendre service aux étudiants, ou rendre service aux citoyens, mais en termes d'utilité idéologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en quelque sorte, dans la manière de penser, dans la manière de soigner, dans la manière de juger, dans la manière d'informer, se trouve le plus en phase avec une idéologie néolibérale, pour l'appeler par son nom, c'est-à-dire effectivement, n'est-ce pas, cette idée que le monde n'est rien d'autre qu'une immense marchandise, et marchandise financière d'ailleurs, c'est même pas une marchandise à consommer, c'est